السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد أيها المسلمون. Donc nous revenons après une longue pause estivale, même si là on est rentré en hiver, donc il n'y a plus d'été qui compte. On a passé la pause estivale, la pause automnale. Khair inshallah, c'est pour mieux revenir Inch'Allah ta'ala. Donc, comme vous le savez, on continue l'étude minutieuse et les réflexions autour de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des événements dans sa vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de revenir là où nous nous sommes arrêtés, il est important de refaire un rappel de ce que nous étudions. Donc on étudie, comme on l'a dit, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être un rappel des références qu'on prend, des sources qu'on utilise. On essaie de prendre un peu de tous les ouvrages, les plus connus et les moins connus. Les plus connus comme la biographie prophétique de Ibn Hisham. Ça a été le premier à écrire quelque chose, un livre qui ne parle que de la narration de la vie prophétique, même si en réalité lui n'a fait que reprendre la narration d'Ibn Ishaq en y enlevant ce qu'il considérait comme faux et en y ajoutant ce qu'il considérait comme des manques. On utilise également le fameux ouvrage d'Ibn Kathir, Bidayah al-Nihaya. On utilise aussi Tariq Tabari, l'histoire racontée par l'imam Tabari. Dans cet ouvrage, il y a des textes authentiques, d'autres qui ne le sont pas, mais ces dernières années, deux savants, Tahir al-Barazanji et Mohammed Subhi Hassan Hallat, sont deux savants dans le hadith, ont annoté et commenté cet ouvrage. Et donc, c'est une des références qu'on utilise. On utilise également Fath al-Bari, le commentaire de Sahih al-Bukhari écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Comme on utilise également des livres qui ont été écrits plus récemment, ces dernières années, ces dernières décennies plutôt, comme le livre de Mohammed Nasr al-Din al-Albani rahimahullah, Tashih Sira al-Nabawiyya, où il s'est attaché à faire un travail de muhaddith, c'est-à-dire rigoureux, uniquement ce qui est authentique dans la vie du prophète. Le seul problème, c'est que malheureusement, il est décédé avant de pouvoir le terminer, donc il n'y a qu'une partie de la partie mécoise. Il est arrivé juste à une partie de la partie mécoise et il n'a pas pu le terminer. On utilise également le livre Ar-Rahiq al-Makhtoum, le Nectar cacheté, ou le Joyau ultime, puisqu'il y a deux traductions différentes, deux éditions qui ont traduit le livre différentes, et qui a été écrit par un savant du hadith, un de l'Inde, qui s'appelle Safiur Rahman Mubarak Furi, qui est décédé il y a quelques années, en 2006. Non, Mohamed Ghazali également, Fiqh al-Sira. D'ailleurs, son livre a été annoté par l'Albani, pour y annoter les hadiths qu'il utilisait, s'ils étaient authentiques ou non. Et aussi Fiqh al-Sira de Saïd Ramadan al-Bouti, qui est aussi mort il y a quelques années dans un attentat en Syrie. Naam. Et j'en ai peut-être oublié un ou deux. Naam. Le Tasheeh Sira Nabawiya, Sira Nabawiya Sahiha de Akram Diya al-Umari, c'est un contemporain. Et aussi Ard Waqa'i' wa Tahlil Sira Nabawiya de l'imam Sullavi. Naam. Halakul Ihad, on essaye de prendre de tout. Bien, vous avez des livres qui vous racontent la vie, qui vous racontent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la façon des muhaddithines, c'est-à-dire selon un tel rapporté d'un tel, d'un tel, d'un tel, et il te donne le texte. Ensuite, un autre événement selon un tel, comme l'a fait Ibn Ishaq, ou d'autres, ou comme l'a fait Ibn Hisham. On prend aussi ceux qui sont attardés sur les morales. Ils ne s'attardent pas beaucoup sur les événements, ils ne racontent pas en détail les événements, comme Saïd Ramadan Bouti ou Mohamed Razali, mais ils s'attardent sur les morales et les leçons à tirer de chaque événement. Et il y a d'autres méthodes dans les ouvrages que je vous ai cités. C'est la méthode, par exemple, de Rahat al-Makhtoum, qui raconte si on racontait une histoire. Donc il va bien dans le détail et il raconte vraiment comme si on lisait une histoire, mais en même temps, donc sans à chaque fois revenir qu'il a rapporté, etc. Mais lui, il a fait lui-même ce travail de narrer, c'est une narration historique. Non. Et aussi, comme je vous l'ai dit, il y en a qui ont fait un travail, ils ont essayé d'être rigoureux sur l'authentification ou non des textes et des événements. Et nous, on essaye aussi de faire ça. Donc, vous savez, pour ceux qui suivent ces cours, que à chaque fois, on essaye de dire si ce qu'on raconte est authentique ou non, qui l'a authentifié, qui l'a affaibli. Quelquefois, les savants ne sont pas d'accord entre eux pour l'authentification ou l'affaiblissement de l'événement ou du texte. On essaie de rapporter ce qui est authentique. Et quelquefois, quand c'est quelque chose qui a été affaibli mais qui est important à raconter, on le raconte quand même, tout en précisant que les savants l'ont affaibli parce qu'il y a peut-être une leçon à en tirer ou une morale à en tirer. Ou quelquefois, c'est tellement répandu qu'on le raconte juste pour dire attention, même si tout le monde en connaît cette histoire, elle est faible. Comme l'histoire de la toile d'araignée ou des pigeons devant la grotte, hein, comme on l'avait raconté. Non. Ala kulli hal. Donc ça, c'est sur les sources que nous utilisons. Ensuite, on s'est arrêté à juste le début de la période médinoise. La dernière fois, on s'est arrêté au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au début de la période médinoise. Ça veut dire qu'on a déjà fait 53 années de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, c'est ce qui arrive qui est le plus riche en événements à expliquer, à raconter, à commenter, à analyser. Donc c'est possible que ce qui arrive va durer beaucoup plus de temps que ce qu'on a fait jusqu'à présent, même si ce qu'on a fait jusqu'à présent a déjà pris beaucoup de temps, puisque je ne sais plus, c'est peut-être la quatrième année, je ne sais plus, c'est ça, troisième ou quatrième, là. Fa'ala kulihal, on va rappeler les grands événements, parce qu'on ne va pas en faire. Donc on va juste rappeler les grands événements de ce qu'on a vu. On a travaillé tout d'abord les premiers cours, on a travaillé sur avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour bien se mettre dans le bain, pour comprendre dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait vivre, comment vivaient les Arabes de l'époque, quel système de vie tribale ils avaient. On a parlé des dynasties, des royaumes arabes du Yémen, etc., parce qu'il y avait une forte influence sur l'Arabie Saoudite actuelle, la péninsule arabique. On a parlé de tout ça. On a parlé des minorités ou des religions de l'époque qui étaient dans cette région-là. On a dit que c'était le polythéisme, mais qu'il y avait aussi d'autres minorités religieuses, comme les Hunafas, ou qui gardaient l'enseignement, qui étaient restés fidèles à l'enseignement d'Ibrahim a.s. Il y avait des minorités juives, des minorités chrétiennes également. Il y avait aussi ce qu'on appelait les Majus, ceux qui adoraient les astres, le feu, etc. Ensuite, on a parlé de la lignée de qui descend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est aussi c'est important de ses ancêtres, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, etc. On a parlé de tout ça, on a parlé de sa naissance, comment sa naissance est survenue, et ensuite on a parlé de la première période de sa vie. La première période de sa vie, c'est la plus longue, Mais c'est celle aussi en même temps où il y a le moins de choses à raconter. Pourquoi? Parce que nous, on s'intéresse surtout au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant 40 ans, il n'était pas prophète. Il a reçu la révélation à 40 ans. Donc les 40 premières années de la prophétie sont importantes. Il faut l'étudier comme on l'a fait. Il y a dedans son enfance d'orphelin, puisqu'il naît sans père. Son père est mort alors qu'il est encore qu'un bébé dans le ventre de sa mère, et sa mère meurt alors qu'il n'a que 6 ans, et son grand-père qui le prend en charge meurt alors qu'il a 8 ans, et ensuite c'est son oncle Abu Talib qui le prendra en charge et qui même le soutiendra à l'âge adulte lorsqu'il sera persécuté parce qu'il annoncera qu'il est prophète. On a vu aussi les événements hors du commun qui lui sont arrivés alors qu'il n'était pas encore prophète, comme la fameuse fente de la poitrine alors qu'il était enfant dans la campagne des Banissards. Je ne reviens pas en détail sur ces événements, comme on a dit, on les a déjà faits, mais c'est juste pour rappeler. On a vu aussi comment, alors qu'il était adolescent, tenter d'aider son oncle Abu Talib pour subvenir aux besoins de la famille, parce qu'Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Il était essentiellement berger, et il a essayé d'aider son oncle Abu Talib dans le commerce, un caravane commercial qu'il avait au Cham. Il a essayé, mais il a dû revenir, puisqu'on avait raconté qu'un moine avait reconnu qu'il allait être le dernier des prophètes, même si Abu Talib ne comprenait pas trop cette histoire. Il lui avait dit de le faire repartir pour qu'aucun mal et aucun danger ne lui arrive au Cham du côté de la Syrie. On a parlé de son mariage à l'âge de 25 ans avec la mère des croyants, Khadija radiallahu anha, qui était son aînée de 15 ans. C'est-à-dire qu'elle avait 15 ans de plus que lui. Elle en avait 40 alors qu'il en avait, lui, 25. Et elle s'était déjà mariée deux fois auparavant. Elle était veuve par deux fois. Non. Et ensuite, on est arrivé à l'événement de la reconstruction de la Kaaba, où il a joué un grand rôle. Et ensuite, il arrive à la révélation. Et ici, la chose essentielle à retenir, c'est que tout ce qu'on a vu dans ses 40 ans, alors qu'il n'est pas encore prophète, vous imaginez, le professeur Sim a vécu 63 années. 40 ans, il n'est pas prophète. 23 ans, il est prophète. C'est-à-dire un tiers de sa vie, il est prophète, les deux tiers, il n'était pas prophète. Pourquoi? Tout simplement parce que les 40 premières années sont les années de la préparation. Il faut le préparer. C'est pas facile d'être prophète. Être prophète, c'est recevoir la révélation, recevoir la prophétie, c'est recevoir une lourde responsabilité, un grand fardeau. Et donc, pendant les 40 premières années de sa vie, il est préparé à recevoir, à supporter ce lourd fardeau. Comme la fameuse fente de la poitrine, etc. Son mariage avec Khadija a toute son importance aussi, parce qu'il doit avoir à ses côtés une femme qui va l'aider, qui va le consoler, qui va le rassurer, qui va le soutenir, qui va l'aider même quand il a des doutes ou des hésitations, comme on le verra lorsqu'il recevra pour la première fois la révélation. Donc ça, c'est une façon de s'entourer et de se préparer, de se former. Et ça doit nous faire prendre conscience à nous tous qu'on ne devient pas quelqu'un, qu'on ne peut avoir un rôle que si on s'y prépare. D'où, d'ailleurs, dans le monde entier, quand on veut faire un métier quelconque, il faut d'abord se former, faire une formation, avoir des stages, acquérir de l'expérience, et en fonction de ça, on devient un expert dans son art. Et bien, c'est comme ça pour tout, et pour la prophétie encore plus. Et là, c'est pas juste Bac plus 10 ou la plus 12, là, il a fallu 40 années de préparation, donc c'est Bac plus 40, si on veut parler comme ça. Non. Et on le voit avec tous les prophètes. La plupart des prophètes ne naissent pas prophètes. Ils deviennent à un moment prophètes. Allah Azza wa Jal ne leur annonce pas qu'ils sont prophètes alors qu'ils ont 3 ans ou 4 ans. Même si leur famille le sait, par exemple Yaqub avec Youssouf, Youssouf ne le saura que plus tard. Le prophète Moussa alayhi salam, vous connaissez son histoire, alors que les soldats du pharaon cherchent tous les nouveau-nés masculins pour les égorger, les tuer, puisque les devins ont prévenu Pharaon que les signes du ciel montraient que bientôt naîtrait un bébé qui deviendrait plus tard un adulte, un homme qui mettrait fin à son royaume, et c'était Moussa alayhi salam. Donc sa mère reçoit l'ordre divin de mettre, de jeter dans le berceau Moussa, de le jeter dans le Nil, dans le fleuve, et de faire confiance à Allah. Et Allah, il fait conduire le berceau où? Dans le palais de Pharaon, au bord du palais de Pharaon. Allez, il faut se mettre à la place de cette mère qui déjà pour elle ça a été difficile, alors que les soldats de Pharaon essayent de défoncer sa porte parce qu'elle a été victime d'une dénonciation. On leur a dit il y a un bébé masculin qui est né dans cette famille, et elle reçoit l'ordre de jeter le bébé dans le fleuve. Ne t'inquiète pas, il lui arrivera rien. C'est déjà difficile de faire ça, elle le fait. C'est comme si elle arrachait son cœur et elle le jetait. Elle le fait. Et en scrutant, elle le voit partir vers la mauvaise direction. Pourquoi Allah Azza wa Jalla lui dit de le mettre dans le fleuve? C'est pour qu'il échappe à Pharaon. Et les vagues le conduisent tout droit vers Pharaon. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est une leçon. Il y en a chaque vie de chaque prophète, c'est un dars, une leçon pour nous. N'aie crainte. Si Allah est avec toi, celui qui veut son mal, eh ben on va lui présenter. Le voici. Et pourtant, il ne pourra pas lui faire de mal parce qu'on ne l'a pas décidé. Et s'il avait pu lui faire du tort, c'est parce qu'Allah l'aurait décidé. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Et c'est ainsi que tu vivras tranquillement, sereinement et dans le bonheur. Quoi qu'il t'arrive, c'est Allah Azza wa Jal, c'est la volonté d'Allah. C'est Allah qui l'a décidé. Bien sûr, tu fais les causes, mais le résultat, au final, ne vient que d'Allah. C'est Allah qui l'a permis. C'est un bien, c'est un bien. C'est un mal dans ta vision, ça devient un bien parce qu'Allah il l'a décidé. Et tu continues à vivre tranquillement. Non. Moussa alayhi salam, donc, il va vivre là dans le palais de Pharaon, il va grandir là, etc. Je passe les détails. Et malencontreusement, sans le vouloir, il va tuer quelqu'un. Et donc il sera pourchassé par Pharaon finalement et ses soldats. Il va prendre la fuite, il va partir loin. Allah va lui dire de partir loin. Non. Donc il va prendre la fuite. À quel moment il va être prophète? Encore plus tard, des années plus tard. Il va arriver à Madian, il va y rencontrer les deux sœurs à qui il va, qu'il va aider pour l'eau du puits. Je passe les détails. Il va travailler plusieurs années chez cet homme, chez ce vieil homme Shu'ayb. Et il se mariera avec une de ses deux filles. Et au final, quand il partira pour essayer de devenir indépendant, parce qu'il travaillait chez son beau-père et il voulait devenir indépendant, c'est là, alors qu'il part pour essayer de découvrir un endroit où il pourra vivre indépendant, qu'il va recevoir sa première révélation. Et donc tout ce qui s'est passé avant, c'était une formation, une préparation pour lui. Non. Donc c'est la même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses 40 premières années. Il y a plein d'enseignements à tirer des 40 premières années, mais c'est l'enseignement principal sur lequel il faut s'arrêter et qu'il faut retenir. Non. Ensuite, il y a eu le moment de la révélation. Et on peut dire que le moment de la révélation, comme c'est une transition entre avant d'être prophète et après quand il prend conscience qu'il est prophète, le moment de la révélation, même s'il est rapide à raconter, contrairement aux autres événements, c'est une partie, un chapitre à lui tout seul, un événement à lui tout seul dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les 40 premières années, ensuite il y a la réception de la révélation, ensuite il y a la période mécoise, et ensuite il y a la période médinoise. On peut, Yarni, distinguer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en plusieurs parties comme ça. Les 40 premières années avant la révélation. Réception de la révélation. Période mécoise qui va durer 13 années, et ensuite période médinoise qui va durer 10 années. Pendant la révélation, c'est un moment de transition parce qu'il passe d'un état où il est un homme comme tout le monde, entre guillemets, où il devient le prophète. Je ne veux pas dire qu'il devient le meilleur des hommes, il l'était déjà depuis sa naissance, le meilleur des hommes. Et c'est parce qu'il était le meilleur des hommes depuis sa naissance qu'Allah l'a choisi, l'a élu pour devenir prophète. Mais il devient prophète, c'est-à-dire, même s'il avait la prophétie en lui, il ne le savait pas encore. Il n'en avait pas encore conscience. Et d'ailleurs, on va voir qu'à ce moment-là, il reçoit la révélation comme un homme normal recevrait cette révélation. Il se met en doute lui-même à ce moment-là. C'est un homme. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on l'étudie dans sa part prophétique, donc dans sa part idéale, qui nous dépasse, mais aussi dans sa part humaine, il était un homme comme nous, il mangeait, il buvait, il se mariait, etc. Et donc il reçoit cette révélation, cette responsabilité comme un homme, avec toutes les hésitations, avec tous les doutes, où il mettra en doute, il se dira c'est pas possible, même si Waraqa ibn Nawfal, le lointain cousin de Khadija, son épouse, lui dira, puisqu'il était chrétien, il lui dira ça, c'est la révélation. Celui qui est venu te voir dans la grotte, c'est l'ange Jibril qui est venu t'annoncer que tu es le dernier prophète que nous attendons. Et nous savons que c'est ça. Et lui, il va en prendre conscience aussi, mais il aura besoin de temps. Malgré ça, il sera dans le doute. Donc on voit bien qu'il a sa part humaine. Et nous, quand on raconte la révélation, ce fameux moment où il est dans la grotte, quand Jibril vient et qu'il le serre, etc., et qu'enfin il reçoit cette révélation, et qu'Allah Azza wa Jalla lui ordonne, Iqra, etc., c'est un moment qu'on raconte et que c'est un moment magnifique pour nous. Mais aussi, on le raconte aussi pour se mettre à sa place. Pour lui, ça a été un moment très difficile, puisque, comme on vient de le dire, pour prendre conscience, moi, et on voit toute son humilité et sa modestie, moi, c'est pas possible. Je dois avoir des hallucinations. Il pensait peut-être qu'il était touché par des hallucinations, ou que ce qu'il avait serré, qui lui disait ces paroles, c'était peut-être un démon qui lui voulait du mal. Et sa propre épouse Khadija, radiallahu anha, lui disait non, Allah jamais ne t'abandonnera. Dieu jamais ne t'abandonnera. C'est pas possible que ce soit un mal qui t'arrive. Voilà pourquoi aussi Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il se marie avec Khadija, radiallahu anha, une des quatre meilleures femmes de l'univers. Comme il l'a dit le professeur Hassan dans un hadith. Non. Ensuite, il y a la période mécoise. Et la période mécoise, nous l'avons terminée. Nous venons à peine de la terminer, puisqu'on vient à peine de commencer la période médinoise. Cette période mécoise, elle est riche aussi en événements. Les premières années, les trois premières années, le professeur Hassan fera la da'wah, l'appel à l'islam, en secret. Il ne la fera pas en public. Il la fera en secret parce qu'il sait que ça va heurter. Il prend en compte ce que sa société va penser. Et ça, c'est très important pour nous, puisque la période mécoise, elle est riche en leçons pour nous. Le professeur Salam, lui et les compagnons autour de lui, ils ont vécu comme des gens qui étaient minoritaires dans une société qui était majoritairement d'une autre croyance et d'une autre, on va dire, d'autres pensées, d'une autre façon de penser et de vivre. Et nous, c'est exactement la situation que nous vivons. Nous vivons en minorité par rapport à notre religion et quelquefois même notre mode de vie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas confronté. Il a pris en compte le contexte dans lequel il vivait, et c'est pour ça que pour ne pas heurter les premières années, il faisait ce qu'on appelle une da'wah ciblée, uniquement à ses proches, à sa famille, à ses amis qu'il comprenait et qu'il le connaissait depuis longtemps. Quant aux autres, il les a laissés pour plus tard. Donc d'abord parce qu'il a fait ça, d'abord parce qu'il prenait conscience du contexte pour se protéger, parce que ça pouvait être dangereux et ça va le devenir justement. On va le voir quand il va, on l'a vu quand il a fait la da'wah en public, c'est devenu dangereux. Il le fait aussi pour préparer la suite. Il ne peut pas venir du jour au lendemain tout seul, monter sur un pupitre et parler au monde entier, puisque son travail, ça va être de parler au monde entier, aux arabes et aux non-arabes. Il ne peut pas venir du jour au lendemain et dire « Je viens de recevoir la révélation, je suis prophète pour le monde entier, suivez-moi. » Tout le monde va le prendre pour un fou. Donc il doit d'abord préparer ceux qui le connaissent et qui savent que ce qu'il dit, ça ne vient pas de la folie. Ceux qui le connaissent depuis 40 ans et qui savent qu'il n'a jamais menti, il ne pourrait jamais mentir. Ceux qui ont une entière confiance en lui, il leur livre d'abord à eux ce secret. Et pendant les premières années, il leur enseigne à eux. Pourquoi ? Pour préparer, entre guillemets, ce qu'on appelle le noyau dur. D'où tout va partir. Dans n'importe lequel de nos projets, on doit tirer cette leçon pour nous aussi. Quand on veut faire quelque chose, nous on a trop tendance à vouloir aller vite. On veut faire quelque chose, on pense tout de suite à tout et à la fin. Non, avant d'arriver à la fin, d'abord prépare, mets autour de toi les personnes qui vont être déterminées jusqu'au bout. Un projet comme celui-là, ça va demander des sacrifices Et donc ça va demander des gens qui n'auront aucune hésitation et qui vont être déterminés jusqu'au bout. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce qu'il attend. Puisque parmi les premières révélations, Allah Azza wa Jalla dit parmi les premiers versets dans la surat Mudathir, il dit Wali Rabbika fasbir. Première révélation, ou plutôt la seconde, Allah lui dit, il le prévient, et pour ton Seigneur, sois patient. C'est-à-dire, il l'avertit, attention, tu vas avoir besoin de sabr, tu vas avoir besoin de la patience. Et quand on est tout seul, c'est toujours plus difficile de patienter. Mais quand on a autour de soi des gens qui sont déterminés comme nous, et quand moi je baisse un peu, eux ils me remontent, et quand eux ils baissent un peu, je les remonte, eh bien ce noyau dur, il y a autour, peut-être qu'il y aura la foule et la masse autour. Mais même dans les moments les plus difficiles, quand la masse et la foule partira, il restera toujours un noyau dur. Nous, non. Nous, il y a une personne, tout le monde le suit. Dès qu'il y a un moindre problème, tout le monde part et reste tout seul mesquine, et donc c'est tout, il est foutu. Non. Il faut préparer les noyaux durs. Le groupe qui, lui, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, il continue. Et les musulmans, dans le monde entier, quand on regarde bien et on étudie, même par exemple l'histoire ces dernières années de ce qu'on appelle le printemps arabe, qui s'est transformé en un enfer arabe, puisque la plupart des pays qui l'ont vécu sont en guerre civile. Mais quand on regarde ça, on voit que les musulmans ne regardent pas loin. Dans le sens où ils se fient juste à la masse et à la foule qui sort dans la rue et qui crient tous qu'ils sont d'accord et contents. Mais dès qu'il commence à pleuvoir quelques munitions, il n'y a plus personne. Il reste juste les ou la personne qui avait dit aux gens de venir dans la rue, et eux, bah, c'est facile, il suffit après de les arrêter, de les exécuter, c'est fini. Mais il ne faut pas se fier à la masse et à la foule. La masse et à la foule, elle suit le vent. Mais dès que le vent tourne, elle tourne. Il faut d'abord former les personnes qui, eux, quel que soit le sens du vent, iront toujours dans le même sens. Et ça, c'est très difficile. C'est le défi des musulmans dans les mosquées, dans les écoles, dans les familles, de former des gens qui sont patients, persévérants, etc. Le premier exemple qu'on peut donner, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit, on l'étudie depuis 4 ans. Et on va l'étudier encore probablement pendant quelques années, inshallah ta'ala. Mais pour ça, il faut être patient. On ne peut avoir la science si on est patient. On ne peut acquérir la connaissance que si on est patient. Ce n'est pas facile de prendre un temps qu'on pourrait utiliser à autre chose, de venir, de s'asseoir et d'attendre et d'écouter. D'essayer de retenir et ensuite de revoir et de réviser. Ça demande de la patience. Parce que quelqu'un qui acquiert la connaissance, c'est quelqu'un qui a été déterminé dans cette aventure qui est la quête de la connaissance. Il a été déterminé. Il s'est passé des choses, mais il a été déterminé. Comme le disaient les prédécesseurs pieux, « La yanalu hadha al-ilm illa man attala dukkanahu wa kharraba bustanahu wa mata aqrabu ahlihi ilayhi falam yahdur janazatahu. » N'apprendra cette science et n'acquerra cette science que ceux qui vont ruiner leur commerce. Il a un travail, il a un business, mais comme il a passé tellement de temps en plus de son business à essayer d'apprendre, et bien à cause de ça, il va faire faillite. Parce qu'il va négliger, délaisser son travail. Ensuite, il a un potager, il a un champ, il y a les mauvaises herbes, c'est le bazar, il n'y a plus rien qui pousse. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus le temps de s'en occuper tellement il est attaché à la quête de la connaissance. Évidemment, on est loin de tout ça. La preuve, c'est que nous, on a essayé de mettre en place un cours le dimanche pour que justement, c'est le moment où on n'a rien d'autre à faire. C'est le jour où on peut venir, il n'y a rien d'autre à faire. Et même comme ça, c'est difficile. Et ils disent aussi وَمَا تَأَقْرَبُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَحْضُرْ جَنَازَتَهُ. Et le plus proche de sa famille a pu mourir pendant cette période où il était à la quête de la connaissance, et il n'a même pas pu assister à ses funérailles. Combien de savants, parce qu'ils étaient en apprentissage, ils étaient à l'autre bout du monde, leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, leur enfant, leur épouse sont décédés et ils n'ont même pas pu assister à la janaza, ni à la prière, ni à l'enterrement. Et il disait, n'apprendra la science que celui qui fait ça, que celui qui lui arrive ça. Quant aux autres, il va avoir quelques brides par-ci, par-là, mais sans plus. la patience pour la quête de la connaissance. Et on voit cette patience aussi dans Sourate Al-Kahf. Quand Allah Azza wa Jal dit au prophète Moussa alayhi salam, tu es prophète, mais sur terre il y a un homme, le Khidr, qui connaît des choses que toi-même tu ne connais pas. Il connaît des choses que toi-même tu ne connais pas. Pourtant, lui, il est prophète. Normalement, il a un rang au-dessus. Et Allah lui dit, il connaît, lui, le Khidr, des choses que toi-même tu ne connais pas encore. Nous, quand on apprend, pourquoi on apprend? C'est quoi notre niya, notre intention? Notre intention, c'est on apprend pour avoir un diplôme. Et après, avec le diplôme, on aura un bon métier et surtout un bon salaire qui rentre. Et dès que tu as trouvé le travail et le salaire qui rentre, tu arrêtes d'apprendre. À quoi ça sert d'apprendre? Moi, j'ai appris, c'était pour en arriver là. Ou si j'ai pas appris, mais j'ai réussi par moi-même à faire un commerce et j'ai un bon salaire, à quoi ça sert que je vais apprendre? C'est pour ça qu'on apprend. Mais déjà, on voit qu'on n'a pas compris pourquoi on apprend. C'est pas pour ça qu'on apprend. On n'apprend pas pour avoir un bon salaire, on apprend d'abord pour connaître qui on est, qui est Allah Azza wa Jal, comment faire pour me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que j'apprends. J'apprends d'abord pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Et Moussa alayhi salam, il l'a compris. Et donc, alors qu'il est prophète, il aurait pu se dire, moi, c'est tout, Allah il m'a fait prophète. J'ai pas besoin de connaître d'autres choses. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande directement à Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rempli de l'humilité et de la modestie, parce que pour apprendre, on a aussi besoin d'être modeste. Le fait de venir et de s'asseoir et d'écouter quelqu'un d'autre qui parle, qui peut lui aussi se tromper. Il est comme vous. Il est faillible comme vous. Et pourtant, ça demande cet effort d'humilité de venir, de s'asseoir, d'écouter un autre, parce que la personne qui est en face de vous, c'est un être humain comme vous. Quelqu'un qui est orgueilleux n'apprendra jamais, parce qu'il ne peut pas venir et attendre que l'autre lui apprend et considère que lui, il est mieux ou qu'il connaît mieux. Moussa alayhi salam, il est parti avec toute son humilité à la recherche de l'Khidr. Et quand il l'a trouvé, il lui a dit, je veux devenir ton élève. Il est prophète. Apprends-moi ce que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'Khidr? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne sauras pas être patient. Parce que pour apprendre ce qu'on ne connaît pas, il faut beaucoup de patience. Moussa alayhi salam, il lui a dit, avec le respect qu'il lui doit, Satajiduni, Inch'Allah, Sabira. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. T'inquiète pas pour ça. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé. Il va y avoir trois événements dans lesquels Moussa ne devait poser aucune question. C'est son épreuve de patience, mais il ne va pas réussir à se taire. Et au final, il va perdre son professeur parce qu'il va lui dire c'est ici que nos chemins se séparent, tu n'as pas su être patient. Et quand on médite ça, cette histoire, on voit qu'en fait, Al-Khidr, la première leçon qu'il lui a donnée, c'est celle-ci. La première leçon que Al-Khidr a donnée à Moussa, c'est celle-ci. C'est celle de lui dire Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne sauras pas être assez patient. C'était un avertissement, certes, mais c'était aussi une leçon qu'il lui donnait. C'est-à-dire, attention, première leçon. Pour apprendre, il faut être patient. Apprends d'abord la patience. Mais, c'est comme si nous aussi, on le vit ça, quand on nous prévient, etc. On a l'impression que la personne, c'est comme s'il voulait nous rabaisser. Non, il te prévient, c'est tout. Fais attention, parce que lui, il est passé par là. Et il sait ce que c'est pour arriver là où il est arrivé. Il faut en avoir de la patience. Il faut en avoir de l'endurance. Donc il te prévient. Lui aussi, il était comme toi, il croyait que c'était facile. Et ensuite, il a pris le chemin que tu veux prendre aujourd'hui, donc il te prévient. Donc prends compte. Ah, si lui, il me dit qu'il faut être patient, ça veut dire que je vais en avoir besoin de la patience. À la kouliha. Donc il faut être patient. Pourquoi je suis parti sur la patience?
C'est preuve du prophète.
Non. Les épreuves des prophètes, non. Naam. Wali Rabbika fasbir, Allah Azza wa Jalla dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les premières révélations, il dit et pour Allah, pour ton Seigneur, patiente. Fais preuve de patience. Naam. Et cette patience va donner ses fruits, puisque après les trois premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire la da'wah en secret, il va commencer en public, et là, les persécutions, les tortures comme on les a vues vont s'abattre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons. Il n'est pas nécessaire que je rappelle les tortures, les morts sous les tortures, comme Yassir, radiallahu anhu, comme la première femme à être morte en martyr pour l'islam, Soumaya, la femme de Yassir et la mère du compagnon Ammar, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, quand on parle de patience, il les voyait être torturés dans leur chair. Pour le couple Yassir et Soumaya, être en train d'agoniser, il est passé à côté d'eux, il leur a dit: Sabran ala Yassir, fa inna maw'idakum al-jannah. Patience aux familles de Yassir, car vous avez rendez-vous avec le paradis. Mettez-vous à la place de ces gens qui voient le professeur Sam arriver, ils sont en train d'agoniser. On les torture, on leur fait mal dans leur chair. On écartèle la femme. On étrangle le vieil homme. Et le fils, en plus de se faire torturer, voit ses parents se faire torturer de cette manière. Ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils attendent quelque chose de lui. C'est le prophète. Ils se contentent juste d'une phrase: Sabran ala Yassir, fa inna maw'idakum al-jannah. Patience aux familles de Yassir, parce que vous avez rendez-vous avec le paradis. Juste pour recevoir et accepter cette parole, il faut de la patience. Quelqu'un qui n'est pas déterminé, qui est faible dans sa foi, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre à ce moment-là? Il n'y a pas quelque chose d'autre? Tu ne peux pas nous sortir de là, faire une dua? Non. Wallahi, il faut se mettre à la place de ses compagnons et recevoir dans cette situation cette parole. Juste la recevoir, c'est avoir une foi inébranlable, la certitude en Allah et en la prophétie du prophète, et c'est avoir une patience sans limite. Je ne reviens pas sur tous les exemples de torture qu'ont vécu les compagnons. Pendant cette période, des personnes vont jouer un rôle important. Le noyau dur, les premiers à s'être convertis à l'islam. Vous avez par exemple Abou Bakr, qui tentera à chaque fois les plus faibles ou les esclaves qui sont torturés comme Bilal, de les acheter pour leur donner leur liberté, et surtout pour les sauver de cette torture. Donc heureusement qu'il y a Abou Bakr. Il y a aussi un homme dont on parle peu et qui pourtant va vivre longtemps. Il va mourir plus tard après la mort du professeur Hassan. Il va vivre plus de 80 années. Il va mourir pendant le califat de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il s'appelle Arqam ibn Abi al-Arqam. Il va donner sa maison au professeur Hassan, qui est un peu à la périphérie de la Mecque. Attention, quand on dit à la périphérie de la Mecque, aujourd'hui la périphérie de la Mecque, c'est à 15 km. C'est du côté de Mina, ou de ce qu'on appelle Masjid al-Tan'im, donc c'est à 15-20 km, parce que la ville de la Mecque aujourd'hui elle est grande. Mais avant, la périphérie de la Mecque, c'est le mont Safa, hein. Les maisons, elles étaient petites. Là où on fait Tawaf, c'était la Mecque, il y avait plein de maisons, des ruelles, etc. Et à l'extérieur, c'était Safa, hein. Et là, Arqam ibn Abi al-Arqam, il avait sa maison derrière Safa, un peu cachée de la ville. Donc c'était là l'endroit, la maison secrète où se réunissait le professeur Salim avec les convertis pour les préserver des menaces et des tortures, etc. Et donc on voit comment ces personnes ont un rôle important. Et il y a aussi des gens qui ne sont pas musulmans qui vont jouer un rôle important, comme son oncle Abu Talib. Et ça aussi, c'est important à prendre en compte. Quand on est sous la menace, quand on peut avoir peur pour nous et qu'on est minoritaire, il ne faut pas rechigner à être aidé de gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas comme nous. Comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Talib, comme il va le faire en revenant de Taif quelques années plus tard, mais il aura besoin d'une protection parce que les chefs Mekwa vont dire: s'il revient, nous le tuons. Et il va revenir sous la protection d'un polythéiste, Al-Mut'im ibn Adi, qui va venir avec sa famille, avec les épées, en disant: c'était une tradition tribale ancestrale, j'ai donné ma protection à Mohammed. Et quand quelqu'un disait ça, on ne pouvait pas menacer ouvertement la personne. On devait respecter, parce que c'était un rite tribal ancestral. Quand une personne importante, un chef de tribu, acceptait de donner la protection à quelqu'un, quand bien même ce quelqu'un avait tué quelqu'un de ta famille, tu ne pouvais plus rien faire. Tu étais bloqué jusqu'à ce qu'il lui enlève la protection qu'il lui a donnée. Mut'im ibn Adi, il est venu avec ses enfants, avec sa tribu, avec les épées. Il a d'abord donné l'ordre à sa tribu, il leur a dit: J'ai négocié avec Mohammed, il a négocié avec moi, et j'ai accepté de lui donner ma protection. Mais pourquoi il a fait le montant Ibn Adi? Parce que c'était un honneur chez les Arabes de l'époque, quand on était chef, quand quelqu'un il nous demande, surtout si c'est quelqu'un d'une tribu importante, le professeur Sam appartenait à une tribu importante, qui nous demande la protection, de la lui donner. C'était une preuve de bravoure et de courage. Et au contraire, refuser, c'était une preuve de lâcheté. Pourtant, le Moutalim Ibn Adi était contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, par rapport à ce fait de vouloir montrer par fierté, etc., il a accepté et il a fait rentrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de la Mecque. Non. À la kulli hal, pendant cette période mecquoise, les autres événements importants, il y a, et je vais y passer rapidement puisque là, je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a la Hijra en Abyssinie. Ceux qui vont avoir le plus peur pour les tortures, etc., ils vont émigrer vers l'Abyssinie. Ensuite, il y aura la mise en quarantaine. Quand ils vont être mis en quarantaine pendant plusieurs mois, voire plusieurs années selon les versions, et qu'ils n'auront droit à plus rien, et ce sont des polythéistes arabes qui vont mettre fin à la mise en quarantaine. Donc ici encore une fois, l'importance de s'allier aussi avec des non-musulmans. Il y a 5 personnes qui vont mettre fin à la mise en quarantaine. Si mes souvenirs sont bons, il y a Hisham ibn Amr, Zuhayr ibn Abi Umayya, Al-Mu'tal ibn Adi, encore une fois Abu al-Bakhtar ibn Hisham, et le cinquième, je l'ai oublié. Al-Muhim, ils sont 5. Et ce sont ces 5 qui vont aller mettre fin à la mise en quarantaine, alors qu'ils sont polythéistes. Et qu'au début, ils l'avaient signé, ils étaient d'accord pour mettre sous embargo les musulmans. Ensuite, il va y avoir l'année de la douleur. L'année de la douleur, de la tristesse, parce que le prophète Hassan va perdre à la fois Khadija, qui le soutenait tant, et son oncle, Abu Talib, qui le protégeait également. Ensuite, il va aller à Taïf pour essayer de faire da'wah là-bas, mais il va être rejeté. On va le frapper, le lapider. On va le courir après avec des cailloux, et les gens qui vont, les enfants et les vagabonds de la ville qui ont ordre de lui courir après en le frappant de cailloux, ils ont ordre de le faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais il va réussir à en échapper. Pourquoi? Parce qu'il va se réfugier avec Zayd ibn Haritha dans un verger, dans un potager qui appartient à 2 chefs de la Mecque. Non. Ensuite, après son retour de Taïf, après cela, vers les dernières années de la période mecquoise, il y aura les premiers convertis de Médine, les premiers à se convertir de la ville de Médine. Et il y aura des allers-retours entre les gens de Médine et la Mecque qui vont préparer petit à petit d'abord la propagation de l'islam à Médine et ensuite la hijra, l'émigration. Et je reviendrai sur la hijra et les derniers événements principaux qu'on a vus la fois prochaine, inshallah ta'ala. Donc il est important de prendre conscience que lorsqu'on étudie la vie du professeur Salim, on étudie la vie du meilleur homme qu'a connu l'humanité. Il n'y a pas meilleur homme que lui, à tel point que disait Al-Qadi Ayyad, wa mimma zadani sharafan wa tihan وكدت بأخمصي أطأ خريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. Et les savants disent, il n'y a pas meilleur éloge qui a été fait au sujet du professeur Salem que celle-ci. Pourtant, il y en a beaucoup des éloges, des poètes qui ont fait des éloges. Qu'est-ce qu'il disait le Qadi Ayyad dans ses rimes? Il disait, ce qui me augmente, ce qui me fait ressentir et augmenter mon honneur et ma fierté, et qui me donne l'impression que je suis en train de marcher sur la plante des pieds sur des astres, sur des étoiles. C'est-à-dire, tellement ça m'élève, j'ai l'impression de marcher sur les étoiles. Pas d'être dans le ciel, d'être dans l'espace, de marcher sur les étoiles. Qu'est-ce qui me donne cette sensation? Simplement, le fait que moi, je suis concerné quand toi, Allah, tu t'adresses à l'humanité, tu dis, ya ibadi, oh mes serviteurs, et moi j'en fais partie. Ça me rend fier. Et ça, j'ai l'impression d'être sur les astres et de marcher sur les étoiles. Et la deuxième chose, et que tu as fait de Muhammad mon prophète. Ça me rend tellement fier que j'ai l'impression de marcher sur les astres. C'est mon prophète. Voilà l'avis de qui on étudie et qu'on continuera à étudier la semaine prochaine à la même heure, inshallah ta'ala. Donc à al-Maghrib, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.